Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.
Bonjour à tous et à tous.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-François.
Aujourd'hui, au menu de notre nouvelle émission, de notre numéro 2 d'Enerco Amag, nous recevons M. Michel Elpech. Et nous allons passer sur le grill, lui poser 2-3 questions pour voir son rôle, sa place, son fonctionnement et ses ressentis sur Enerco.
Oui.
Donc, bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour. Donc, j'ai dit dans une première émission que, pardon, que tu avais mis en œuvre un petit peu le PCAUT sur la communauté de communes, et donc tu étais aussi à l'origine de la création d'Enercoa, comme beaucoup de ceux qui s'y sont largement investis par la suite. Je voudrais savoir, comment tu vois 2 ans après, quand même, un peu plus de 2 ans même après que soit lancé le projet, l'évolution d'Enercoa et de... là où il en est arrivé, Enercoa, où elle en est arrivée, si on peut dire.
Oui, mais comme tu le disais, c'est dans le cadre du PCAET, donc le plan climat et énergie du territoire, qu'on a lancé Enercoa, avec d'autres actions, qui ont été par exemple l'extinction de l'éclairage, on en parlait avant l'émission. C'est donc un projet ambitieux pour le territoire. Et comment je vois Enercoa, moi je trouve que on va relativement vite. Quand on compare à d'autres SIC sur des territoires voisins, on a un projet très ambitieux. Hein. Je rappelle quand même qu'au départ, c'était 12 toitures identifiées. C'est quand même... alors que souvent, les SIC commencent par 2-3 toitures. On est plutôt sur des projets qui partent sur ces ambitions-là. Nous, on est sur des ambitions quand même plus importantes. Il faut savoir qu'au départ, ça a été initié par la communauté de communes donc, dans le précédent mandat. Et que donc il y avait un travail de préparation qui avait été fait à la création d'Enercoa. Et je trouve que l'évolution, enfin que les bénévoles qui se sont investis dans la construction de la SIC ont fait un très très bon boulot et que la SIC vraiment avance bien, même très vite, puisqu'on en est à mes yeux, je pense qu'on est même presque dépassé, l'outil dépasse le l'ouvrier, quoi, puisque on s'aperçoit maintenant qu'on a un besoin de professionnalisation, qu'on a un besoin d'aller pour aller plus loin, de monter en compétences. Donc les bénévoles l'ont fait, ont donné beaucoup de leur temps, donnent encore beaucoup de leur temps. Quelques personnes, ça tourne autour d'une dizaine de personnes qui travaillent beaucoup au développement d'Enercoa et tout ça bénévolement, il faut le répéter quand même. Hein. Et moi, je suis étonné par la dynamique, par la professionnalisation de ces bénévoles qui se sont appropriés, que ce soit sur le plan technique, le plan financier,
juridique un
le
peu,
plan
oui.
gestion, se sont appropriés vraiment l'outil et le gèrent comme une entreprise, parce qu'on est devenu une entreprise. On est à un seuil, là, actuellement, on arrive à un seuil.
La précédente émission, on avait expliqué comment on travaille par rapport aux commissions, les COREF, qui sont hebdomadaires, le COCOP, qui est 4 fois par an. Donc là, on avait bien posé un petit peu la manière dont on travaillait. Et c'est vrai que ça permet d'avancer. Et c'est, la coopérative permet des échanges. Je pense que la coopérative, quand elle fonctionne comme la nôtre, elle met en commun des compétences. Et ce qui peut expliquer cette vitesse et cette réussite.
Mais moi, je pense que là, c'est en amont la préparation. Hein. Faut dire ce qui est. Il y a eu un gros travail de fait, particulièrement par les techniciens de l'Interco en préparation dans le cadre du PCAET. Donc, on avait eu une assistance à maîtrise d'ouvrage par Éclair qui nous a accompagnés, oui. qui nous a préparés à créer la société. Guy en faisait partie des premiers.
Oui.
Là, on a travaillé au statut. Je pense que c'est ça, c'est qu'on s'est approprié l'outil. Tous autant que nous étions, on s'est vraiment impliqués. Je pense que les gens ont été séduits par cette démarche. C'était nouveau sur le territoire, hein, des sociétés coopératives initiées par une entité politique, c'est rare.
Oui.
C'est plutôt rare.
Et associant les citoyens et tous ces gens-là travaillant dans un bon esprit
et
ensemble.
On a travaillé. Moi, je pense que ça a été très très bien construit. On a des personnes à l'Interco. Enfin, moi, je le dis. Hein, On a des gens, je passe à Julien, à Élise, à Julie, qui sont des gens compétents, qui nous ont bien accompagnés aussi.
Tu peux donner les noms.
Et qui continuent, hein, parce qu'on est, est toujours quand même... On a un œil sur Enercoa. Moi, je parle là en tant que politique. Quoi. On a un œil sur Enercoa parce que c'est... on est content de ce qui se passe. Quoi. On est heureux en tant qu'élu de voir ce qui se passe sur le territoire et que finalement, les projets qu'on avait initiés il y a 2 ans... Eh bien, au bout de 2 ans, ça y est, on voit les premiers panneaux sur les toits. Nous, on est le premier bâtiment Interactis à fonctionner. Ça y est, là, on produit de l'électricité. Enfin, Enercoa produit de l'électricité. Okay. Et tout ça, en 2 ans, ça a été finalement très, très vite. Et en plus, avec une crise sanitaire qui n'est pas neutre et qui nous a mis le bâton dans les roues. Parce qu'en termes de développement, de
recherche
de
pour
monter
le
en puissance de la société.
Du sociétariat, oui.
De recherche de sociétariat, comme tu le dis, Guy, on a eu quand même des problèmes et on en a encore, hein, c'est pas simple. Oui, oui. On s'aperçoit que c'est pas simple. Et que pour faire une société solide, on a besoin de tous et on a besoin de beaucoup de monde. Voilà.
Oui. Et bien, d'ailleurs, on va le rappeler chaque fois, hein, c'est vraiment un objectif qu'on se fixe aussi pour ces émissions, c'est d'appeler chacun à nous rejoindre. Apporter ses compétences, apporter bien sûr une part au capital hein, de la bien société, sûr. Mais beaucoup aussi ses compétences et essayer de s'investir pour que ce beau projet de développement des énergies renouvelables et donc de participation à la transition énergétique sur le territoire soit toujours plus fort. Quoi.
Pour que ça fonctionne, il faut que les citoyens soient acteurs de ce projet. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des acteurs, il y a un projet, il y a un territoire. Et c'est à nous de se prendre en main et de valoriser notre territoire.
Puis ce qu'il faut dire aux citoyens, c'est qu'on n'est plus dans le rêve. Hein. On est dans la concrétisation.
C'est ça.
On est, on est dans la période dure, c'est-à-dire qu'on est en train de voir sortir les projets. Interactif, je le disais, demain,
22 juillet.
Les ateliers de l'hôpital ont été équipés. Demain, c'est Saint-Mensa, Monteil, La Fouillade.
Il y a Gramont
qui est
encore avant,
mais une communauté de communes, mais qui est déjà équipée, qui va fonctionner et va mettre les visites en service prochainement. Voilà, on est vraiment dans du concret. Donc maintenant, on n'est pas dans du rêve, on est vraiment sur quelque chose de concret, on produit, l'entreprise commence à produire donc, de l'électricité, va générer quelques rentrées d'argent, ce qui va nous permettre de développer encore derrière. Et c'est quand même, je pense qu'au bout de 2 ans, on peut se satisfaire de ce résultat. C'est quand même, je pense que c'était, il faut le répéter. Et là, je félicite, malheureusement, moi, ma fonction fait que j'ai moins de temps à accorder à Enercoa, et je le regrette, mais voilà, je suis occupé par ailleurs. Mais je reconnais que... Les membres là, du COCOP franchement travaillent très durement et c'est pratiquement des emplois, ce sont tous souvent des retraités, la plupart sont des retraités et ils sont presque à plein temps. Voilà, il faut leur tirer le chapeau parce que c'est un gros boulot en termes techniques et d'appropriation surtout du fonctionnement, quoi. C'est compliqué quand même, on s'aperçoit tous les jours qu'il y a des écueils, que techniquement, tout ne marche pas comme on veut. Voilà, on apprend.
Même administrativement, c'est assez complexe.
Ah oui,
quoi,
c'est
déjà,
complexe,
pour les toitures et pour l'installation du central. Bon, on pourra y revenir. On fait peut-être une pause musicale ou...
On peut faire une petite pause musicale, c'est parti.
Avec Femi Kuti.
Voilà.
L'Afrique.
Africa for Africa is the way I passer. Leaders must bring us together.
Africa for Africa.
As Africans, we must love Africa. Hey, hey, hey.
Africa for Africa.
As Africans, we must care for Africa. Hey, hey, hey.
Africa for Africa.
Africa for Africa is the way I say.
Africa for Africa.
Africa for Africa is the way I say.
Pour la seconde partie de notre Enercoa Mag, toujours avec Michel, Michel Delpech et Guy Peset.
Oui.
Donc la première partie de notre seconde émission, nous avons évoqué un des axes de Enercoa, c'est produire de l'énergie, mais il y a aussi un second axe, on va l'évoquer aujourd'hui, le groupement de commandes. Et Michel peut aussi continuer à évoquer peut-être l'Enercoa et les communes, de la communauté de communes.
Oui.
Oui, bien sûr. Oui. D'entrée de jeu, il y a une forte participation, une implication des communes, puisque sur 29 communes, je crois qu'il y en a la moitié pratiquement qui sont adhérentes à Enercoa, qui ont participé à la montée en capital de l'entreprise. Donc ça veut dire l'intérêt que portent les communes au projet Enercoa. Je pense que c'est pas neutre. Et la preuve, c'est que nous ne pouvons pas mobiliser tous ces capitaux parce qu'on n'a pas assez de citoyens. Donc, pour le moment, on est en manque de citoyens coopérateurs. Donc, il faut le répéter. On a besoin d'adhésion pour pouvoir disposer aussi de tous ces capitaux
publics. On a besoin de vous.
Qui sont là, hein, et qui peuvent permettre de développer Enercoa. Donc on a besoin de tout le monde, c'est ça. Et moi, sur ma commune, j'ai facile à en parler, d'autant plus que sur ma commune a eu lieu la deuxième réunion ayant eu lieu à Najac, à l'occasion du jour de la nuit dans le cadre du PCAET. Et la seconde qui a été le départ d'Enercoa vraiment, c'était à Monteil, et où on a eu une réunion, il y avait près de 80 personnes, je me rappelle, et où on s'aperçoit que les communes et les... où il y a eu des réunions un peu structurées, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème. L'adhésion se fait plus facilement.
Oui.
Et je pense qu'on a besoin, pour être reconnu, pour être qu'encore, on fasse un travail de fond auprès des communes. Il va falloir encore, on a un travail de commercial, quoi. Il faut présenter notre entreprise coopérative et la faire valoir auprès des citoyennes de notre territoire.
Et pour ça, je rappelle qu'on est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a notre local 3 rue Presta. Le site internet. La presse écrite, là, la radio, donc voilà, on fait tout.
On ne se limite pas même au territoire de l'OAC, puisqu'il y a pas mal de communes voisines qui sont intéressées par notre projet de développement aussi oui, des énergies des... renouvelables sur des toitures publiques dans leurs communes.
Oui, oui, bien sûr, on a des demandes. On a du mal même à répondre à tout le monde parce qu'on manque justement de main-d'œuvre, on manque de personnes
compétentes pour faire les études.
Pour aller au-devant des demandes. On a énormément de demandes, et même par des entreprises. On commence à avoir maintenant des retours d'entreprises, d'agriculteurs aussi. Donc voilà, on commence à avoir une reconnaissance. Bon, cette reconnaissance, il faut, pour l'améliorer, il faut continuer à travailler, continuer à poser des panneaux solaires pour que ce soit visible. C'est vrai que c'est important de voir le travail quand il est fait.
Oui.
Et puis il y a aussi ce travail, comme tu le disais tout à l'heure, sur les groupements d'achat qui peuvent intéresser surtout les coopérateurs. Et
les consommateurs en général.
Et même les consommateurs en général. Donc voilà, c'est... Il y en a 10 là, on a fait un premier essai avec 10 sociétaires qui vont développer des petits parcs solaires en autoconsommation sur leur maison de 3 ou 6 ou 9 kilowatts. Donc voilà, c'est Enerqua qui s'occupe donc de l'ingénierie pour développer ces projets-là et qui permettent à des sociétaires d'accéder à une production, à une autoconsommation à un prix inférieur à ce qui se pratique généralement dans le
marché. Je crois que Jean-François est assez au courant de ces...
Oui, ce que je veux dire, c'est que Enerqua aussi propose ce qu'on appelle le tiers de confiance. C'est qu'aujourd'hui, concrètement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de phoning, des gens vous proposent des installations, c'est des gens qui viennent de Marseille, de Lyon, de Montpellier. Le but, c'est faire du chiffre. Ils viennent, on repart, il y a quand même beaucoup d'escroquerie. Voilà, c'est bon clair. Donc nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose de qualité et, encore une fois, une confiance. Au niveau des chiffres, globalement, il y a 10 ans, une centrale comme ça individuelle, c'était 20 000 euros. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 12 000. Et Enerqua, c'est moins de 10 000. Grosso modo. Voilà, pour que les gens aient un petit ordre d'idée. Et il y a un premier achat, une première réception, on va dire, qui a été faite en juillet. Et là, il y a une deuxième réunion pour le groupement d'achat, pour toujours pareil, cette centrale, qui va s'effectuer début septembre. Donc, si les gens sont vraiment intéressés, il faut se rapprocher du local 3 rue Presta, ou appeler. Ça peut être intéressant de se greffer à cette réunion, ce sera début septembre, voilà.
Oui. Je pense que c'est intéressant et ça permet quand même, quand on autoproduit, ça, on sait le coût de l'électricité, on sait les augmentations à venir. Hein, on sait pertinemment que l'électricité, il va y avoir une augmentation très forte dans les années à venir. D'où l'intérêt d'autoproduire.
De mieux isoler.
Mieux isoler aussi, ça fera l'objet aussi
d'autres,
d'un travail.
D'autres groupements d'achat et d'autres études.
D'autres groupements d'achat. Mais c'est vrai que tout ça, c'est un ensemble. Quoi. Et les statuts d'Enerqua nous permettent d'agir sur tous ces leviers-là. Donc, on veut être. C'est la volonté de tous le COCOP. On en parlait hier, puisqu'on avait une réunion du Conseil coopératif. C'est d'être sur tous ces axes-là. Pour l'économie d'énergie, la production d'énergie renouvelable et aussi l'autoconsommation, puisque ça fait partie aussi des enjeux forts pour notre territoire. C'est de savoir quand même que quand on revient à l'origine, on est un territoire qui importe beaucoup, beaucoup d'énergie.
Et justement, dans les réductions de l'énergie, tu as parlé tout à l'heure, tu as fait allusion au fait qu'on ait été dans les éclairages publics, de la réduction de l'éclairage public en nombre d'heures. Est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait près de ça, puisque...
Le bilan n'est pas fait pour le moment parce que c'est trop frais. Ce qui est sûr, c'est que sur 29 communes, il y en a 26 qui éteignent la nuit ou qui réduisent, parce que certaines se sont équipées en LED et donc ont des systèmes de réduction qui consomment très peu la nuit, qui laissent en veilleuse. Voilà, le LED permet ces choses-là. Et du coup, on a quand même sur 29 communes, 26 communes qui sont déjà partenaires de ce projet d'extinction des feux, des lumières la nuit. Ce qui est chiffré, et encore, Villefranche n'est pas dans le lot, ce ne sont que des communes rurales. Si demain on intègre Villefranche, ça sera énorme, l'économie. Mais là, l'économie qui avait été calculée dès le départ... On était autour de 300 000 euros pour le territoire sur une année. Ce n'est pas neutre. Et ça, sur que les communes rurales. Donc, si demain, On intègre Villefranche qui correspond à peu près à 50% de la population. Oui. Mais, bon, on sait très bien que ça ne sera pas possible d'éteindre partout sur Villefranche, mais il y a peut-être des possibilités d'économie aussi. On peut arriver facilement à doubler cette économie, quoi. C'est énorme.
C'est énorme.
Pour un territoire, c'est énorme. On peut dire, même si on n'éteint pas, on peut réduire peut-être par des modernisations, des choses comme ça, qui peuvent nous amener à faire des économies assez conséquentes. Quoi.
Oui. Voilà. Non, mais je trouve aussi que c'est un beau que c'est une belle réalisation.
Oui, et puis moi je le vis sur ma commune. Je pense que beaucoup de gens l'apprécient parce que finalement on apprécie la nuit. Il y a pas que nous, il y a les oiseaux aussi.
La nuit étoilée aussi.
C'est une réappropriation de la nuit.
Oui. Je vous remercie. Je vous propose de nous quitter sur ces belles étoiles et sur ces beaux projets, ce beau projet d'Ercois. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous et rendez-vous pour la prochaine émission, notre magazine numéro 3. Merci à vous.
Merci
au revoir.
Beaucoup,
merci.
Au revoir.
Toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.